je suis pédopsychiatre et j'ai pris part dans ce groupe à deux niveaux, comme pédopsychiatre d'abord, mais aussi comme diacre, puisque ma mission est d'être dans les questions de psychiatrie, aussi bien dans le monde, à l'hôpital, qu'au sein de l'Église, et j'ai trouvé ma place dans ce groupe.
Cette question de l'inceste, c'est un des tabous les plus importants dans notre société et sans doute dans toutes les sociétés. C'est pourtant quelque chose dont il est nécessaire de parler à votre sens?
Tout à fait. L'Église est prête à recevoir à l'appel des plus pauvres et les personnes qui ont malheureusement vécu ce traumatisme sont dans un état de détresse, dans un état de traumatisme, de confusion et elles doivent être accueillies par l'Église, pas n'importe comment.
C'est pour ça que le groupe Chrétien face à l'inceste s'est orienté vers l'accueil et la prière. Ça paraissait la réponse la plus adaptée.
Tout à fait. Il faut savoir que les personnes qui ont vécu le drame de l'inceste restent très souvent dans le silence et vont mettre beaucoup de temps avant de pouvoir oser une parole. Cette parole peut provoquer des réactions de déni et l'Église doit pouvoir entendre pour pouvoir à la fois accueillir, prier pour et orienter vers un soin si besoin. Le plus souvent, le soin est nécessaire, que ce soit un soin autour d'une psychothérapie pour aider la personne qui a vécu le drame de l'inceste à retrouver des repères normaux, puisqu'elle a été abîmée au plus profond de son corps et de son cœur.
Qu'en est-il des familles? Parce que souvent, les familles éclatent au moment où est révélé ce tabou.
C'est un sujet très important ce que vous évoquez. Effectivement, la personne qui vit le drame de l'inceste peut avoir une double peine. La peine première qui est le traumatisme de l'inceste, c'est-à-dire de vivre des gestes de la sexualité complètement séparés de l'amour. Ça, c'est le premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, c'est est-ce que ma parole va être entendue? Est-ce que je vais être reconnu dans ma blessure ou pas. Et c'est pour ça que très souvent, ces personnes peuvent être doublement traumatisées quand elles ne sont pas reconnues par leur propre famille. Effectivement, le grand risque, c'est l'éclatement de la famille, d'où l'importance de l'écoute et ensuite du soin pour la personne, pour les personnes, à savoir aussi bien la victime que l'agresseur, et puis une démarche judiciaire aussi, puisqu'il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas de loi dans cette question-là. La question de l'inceste, c'est beaucoup une confusion des places, une confusion des générations. Et très souvent, on a des modèles transgénérationnels où la question de l'inceste, malheureusement, sévit sur plusieurs générations dans un secret.
Comment la famille est-elle remuée dans ces affaires d'inceste? Ça bouleverse tout. Vous parliez de problèmes entre les générations. Mais alors là, au moment où la vérité éclate, et quand on dit éclate, c'est vraiment le cas, la famille aussi parfois.
Tout à fait. Le plus souvent, donc la question de l'inceste, comme son nom l'indique, peut être vécue dans la famille stricto sensu. Ça peut être le père qui peut être agresseur, mais ça peut être aussi la famille élargie. Et le plus souvent, les révélations vont se faire en dehors de la famille. Dans un lieu de confiance pour le jeune, pour l'enfant. C'est très important d'avoir ça en tête, puisque c'est ces personnes extérieures qui vont ensuite aider l'enfant à pouvoir révéler à un plus proche. Souvent, c'est la mère qui est dépositaire des révélations, mais pas toujours. Ça peut être des frères ou des sœurs. Et ça va provoquer des remaniements très profonds dans la famille avec des mécanismes de défense majeurs et le plus violent pour l'enfant ou la personne, c'est le déni. Hein, donc je parlais de double peine, il s'agit bien de cela. Donc il va y avoir un travail d'émergence de la vérité au prix parfois de faire éclater la famille, effectivement.
Des mots me viennent en tête en vous entendant. Il y a le problème de la vérité, du positionnement, de l'autorité aussi, de la confiance au sein d'une famille, toutes les valeurs de base fondamentales, fondements d'une famille.
Tout à fait, c'est pour ça que la notion de justice est première. Souvent, quand ce drame arrive dans une famille, c'est que il y a un climat incestuel qui prédomine et des choses qui ne sont pas clarifiées dans la place des générations et la place de chaque individu au niveau de la famille. Donc le soin ne peut pas se mettre en place sans que la justice passe. Donc la justice va reconnaître la victime comme victime et l'agresseur comme agresseur. Et nous savons bien, même si c'est un gros travail et que c'est quelque chose d'assez douloureux, chaque personne a droit à un pardon. Mais c'est un cheminement qui peut être très très long, aussi bien pour la victime que pour l'agresseur.
Alors on sent toute votre expertise, j'ai envie d'en appeler aussi à votre expérience de pédopsychiatre. Vous nous parliez d'enfants, d'adolescents, est-ce qu'il y a des histoires qui se terminent bien? On entendra tout à l'heure le témoignage de Jacqueline qui a mis des années et des années avant de faire émerger ses souffrances. Est-ce qu'on peut en sortir plus vite?
Il faut du temps, mais ce qui est important, c'est tout ce travail de déconfusionnement. C'est-à-dire que la personne qui a vécu le drame de l'inceste vit dans quelque chose de la confusion, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, autour de la sexualité et de l'amour. Et donc il va y avoir tout un cheminement pour que ces personnes puissent relier de manière saine sexualité et amour. Il faut tout un temps aussi pour ces personnes pour reprendre confiance en elles-mêmes, se renarcissiser, s'aimer telles qu'elles sont, pouvoir exprimer aussi une colère juste vis-à-vis de leur agresseur, car tout ce qui est question de pardon ne peut se faire qu'après avoir reconnu l'agresseur. Donc j'ai envie de dire, en tant que pédopsychiatre, et même si je suis diacre, il est très important que la personne, l'enfant, puisse avoir une colère énorme contre son agresseur. J'ai envie de dire, c'est déjà un repérage en soi.
Ce qu'on appellerait une sainte colère, en tout cas une saine colère.
Tout à fait. Ce n'est pas obligatoirement le cas au départ. Souvent, les enfants sont dans un lien extrêmement perverti où amour et dépendance se mêlent et rapport de domination. Donc on voit tout le travail à faire pour ensuite pouvoir avoir cette fameuse saine colère.
Alors, vous le disiez à l'instant, vous êtes pédopsychiatre et diacre. J'ai envie de vous demander, Dieu, dans tout ça, où est-ce qu'il est? Et on imagine à côté de la victime, mais beaucoup pourraient se dire, comment permet-il des choses pareilles?
Dieu est présent dans toute personne qui est profondément blessée, dans toutes les personnes qui sont pauvres. Dieu est présent dans chacun de nos frères et c'est vrai qu'il est important de savoir que l'Église accueille ces personnes. Très souvent, la psychiatrie, la psychanalyse et l'Église ont vécu sur des chemins très parallèles sans pouvoir se réunir. Or, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et notamment chez les jésuites, on peut avoir la double casquette psychanalyste-prêtre, psychanalyste-diacre ou psychanalyste-chrétien, tout simplement. Ça me semble très important. Il est important de cheminer avec les mouvements humains de l'enfant, de la personne. Et Dieu est présent, la spiritualité est au cœur de l'homme. Voilà, donc les mouvements humains et spirituels se conjuguent.
Il faut prendre la personne dans sa totalité, en ce qu'elle est âme, corps, esprit.
Tout à fait. Le cœur peut être blessé. Le drame de l'inceste, c'est vraiment ce sujet-là. C'est-à-dire, l'amour est abîmé dans ce qu'il y a de plus profond. En tant qu'homme marié, médecin, père de famille, diacre, c'est un véritable trésor que de pouvoir aimer, d'aimer son conjoint, de pouvoir donner la vie. C'est un trésor, mais ça peut être une totale blessure pour certains. Et donc l'Église peut aider, accueillir, orienter vers un soin ces plus pauvres, ces personnes qui ont été abîmées dans ce qu'il y a de plus beau en elles.
On remercie beaucoup Pierre Falala pour ce témoignage. Il y a un autre témoignage qui est prévu dans cette émission. En face de moi, Jacqueline, pour l'instant, est restée très discrète. Jacqueline, vous avez accepté de nous partager un morceau de votre vie et de nous dire aussi que vous allez très bien aujourd'hui, que vous allez beaucoup mieux. Vous avez, vous, vécu ce traumatisme dans l'enfance de l'inceste. Est-ce que vous acceptez d'en parler ?